Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
J'ai proposé à Eva Barra de nous rejoindre les vendredis du confinement à 10h20 pour nous donner quelques conseils sur le rapport à soi, le rapport aux autres en cette période trouble. Donc, Eva Barra est ethnocoach en fusion culturelle. Elle a travaillé pendant de longues années dans le social. Elle aime aider, apporter du sens dans la vie des autres. Et depuis quelques années, elle est ethnocoach. Donc, c'est un concept qu'elle a mis en place, donc elle a créé pour aider les afro-descendants à trouver leur place. Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa Radio. Je suis très heureuse de te retrouver le vendredi. Surtout, merci beaucoup d'avoir accepté de nous retrouver sur l'antenne d'Africa Radio. Comment ça va, Eva Barra? Bonjour.
Bonjour, Aïssa. Bah, écoute, je me porte bien. Et toi, comment tu te sens?
Ça va très bien. C'est vendredi, c'est le 13 novembre. C'est le confinement, totalement. Mais tout va bien.
Ok, bon, on essaye tous, je pense, de garder le moral. Moi, je te remercie pour cette invitation et merci d'offrir justement aux auditeurs ce temps pour pouvoir essayer de se rebooster, se remonter en énergie et trouver justement un sens à ce qu'on peut faire de cette période de confinement.
Alors, lors des prochaines semaines, nous parlerons notamment des relations de couple, la relation de famille, avec notamment des thématiques comme quelles sont les forces et les faiblesses de notre foyer que le confinement a mis en lumière, quel impact sur les enfants, comment créer du temps pour soi en étant confiné en famille notamment. Et aujourd'hui, ça va être un sujet assez sensible, mais je pense que c'est un sujet qui va être très très intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, ça concerne nos enfants et les événements que l'on a vécu ces derniers jours. Alors, comment aborder ces sujets avec nos enfants? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, Eva Barra.
Exactement. Bah, justement, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup d'interrogations sur les derniers événements qui ont pu se passer sur l'Hexagone principalement et également sur les métropoles, hein, parce qu'il se passe également beaucoup de choses en ce moment, des débordements de violence qui vont avec, et comment les expliquer, comment les amener à nos enfants. Ça nous semblait un sujet important à aborder aujourd'hui.
Alors, il y a eu l'assassinat donc de Samuel Paty, le professeur, devant l'école. À la rentrée, une minute de silence, ou en tout cas un moment de recueillement pour les enfants. La veille, certains parents se sont demandé comment on va leur expliquer, pour certains qui n'étaient pas forcément au courant de la situation, surtout ceux qui sont les plus jeunes, notamment, Eva.
Totalement. Bah justement, c'est surtout les plus jeunes qui sont aujourd'hui, à mon sens, encore préservés des écrans, encore préservés des informations. Moi, j'appelle ça instantané. C'est qu'en fait, un événement a à peine lieu qu'il est déjà diffusé sur le plan national, voire international. Et du coup, les plus jeunes, à ce jour, ce sont qui sont les plus protégés. Un grand merci pour ces différentes campagnes qu'il y a eu autour des âges et des écrans. Mais à côté de ça, justement, quand vient le moment des rassemblements de ces enfants-là, comme le retour à l'école, l'information dont ils étaient préservés se retrouve peut-être diffusée. Donc beaucoup de parents se sont demandé, est-ce que je prends les devants et je leur en parle, ou est-ce que j'attends de savoir si ils vont recevoir l'info ou non de la part de leurs camarades de l'école, et là du coup mettre des mots dessus. Donc c'est toute la question, est-ce que on fait de la prévention ou est-ce que justement on fait de la réparation une fois que l'enfant a déjà l'information?
Alors c'est vrai, Eva, par exemple, moi du coup, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à moi, mon histoire. Quand on était petit, à 20h, c'était les infos et tout le monde regardait les infos en même temps. Moi, par exemple, à la maison, quand c'est les infos, j'évite que ma fille soit là. Donc c'est vrai que des fois, on a un rapport assez complexe justement à qu'est-ce que les enfants doivent regarder. Qu'est-ce qu'on doit regarder devant eux?
Totalement. Bah justement, j'ai le sens.
Eva Barra, j'ai l'impression que la communication a été interrompue avec Eva Barra qui va nous retrouver dans un petit instant. Il y a eu un petit souci de connexion, donc on va retrouver Eva Barra tout de suite. Ne bougez pas.
Jam
Alors si tout va bien, Eva Barra est de retour, on remettra le titre de You Sonder et Fali Poupa Banla dans un instant. Eva, je ne sais pas ce qui s'est passé, oui. Je suis désolée, c'est les aléas du direct.
C'est ok, les aléas du direct. Donc je te disais justement que j'ai le sentiment que les informations ont changé ou du moins ont évolué. À mon sens, justement, il y a quelques années encore en arrière, les informations c'était quelque chose qui était préparé. Il y avait des micro-reportages et quand il y avait de l'exclusivité et du coup du direct, c'était à échelle très réduite.
Ouais.
Aujourd'hui, les informations, l'événement est encore à chaud qu'il est déjà sur les écrans.
Ouais.
Donc ça peut expliquer justement cette crainte que tu as et comme beaucoup d'autres parents ont, de se demander, attends, mais en fait, je vais allumer la télé, je vais me mettre devant la télé avec mes enfants pour les infos, mais je ne sais pas ce qu'ils vont mettre tout d'un coup. Je ne sais pas ce qu'ils vont me passer comme direct. Donc, cette appréhension, à mon sens, en tout cas, elle est justifiée parce que finalement, les informations, on prend de moins en moins le temps de les analyser, on prend de moins en moins le temps de les préparer avant de les diffuser. Il y a une course à l'urgence, il y a une course à qui va être le premier à diffuser l'information, qu'elle soit réelle ou non, qu'elle soit qu'on l'ait dans sa globalité ou pas, on diffuse tout de suite pour être le premier à avoir transmis l'information. Et on va venir l'étayer par la suite. Donc moi, j'entends et je comprends justement cette crainte qu'on a aujourd'hui de regarder les informations avec ses enfants, cette crainte qu'on a de les mettre à disposition de ses enfants. Maintenant, c'est ce qu'on voulait aborder également, l'autre versant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ils ne passent pas forcément par les informations pour avoir, pour savoir ce qui se passe aussi bien sur l'Hexagone que dans le monde.
Ouais.
Et dès lors qu'ils ont des écrans, en fait, ils ont déjà accès à ce qui se passe dans le monde.
Alors, comment leur parler de sujets sensibles? Par exemple, comment leur parler de religion? Comment leur parler, répondre à leurs questions lorsqu'ils viennent et qu'ils nous posent des questions comme ça? Comment y répondre? À partir de quel âge? Comment on doit s'y prendre, Eva Barra?
Je pense que principalement, il faudrait partir de la curiosité de l'enfant. Il y a des sujets sur lesquels il est important de les sensibiliser assez rapidement. Moi, je mets en avant justement le corps,
ouais.
Cette zone et cette frontière qu'il est important qu'il s'approprie assez rapidement. C'est pour ça que je dis et redis qu'en fait, on est notre priorité. C'est important de l'apprendre aux enfants, d'une part, qui sont leur priorité, mais que du coup, eh bien, ils sont les rois et les reines de leur royaume. Et leur premier royaume, c'est leur corps.
Ouais.
Donc en partant de là, justement, pour moi, c'est un des sujets où le plus rapidement possible, c'est important d'aider l'enfant à s'approprier son corps et du coup à poser les limites au niveau de ce corps-là. Ensuite, eh bien, pour les autres sujets tels que tu l'as évoqué, la religion, eh bien, ça va être aux interrogations de l'enfant. À mon sens, c'est que finalement, l'enfant va s'interroger à un moment donné sur si ses parents prient, ben, pourquoi tu pries ?
Ouais.
Eh bien là, justement, prendre le temps de répondre parce que ça vient de sa curiosité. Et du coup, ça va valoriser l'enfant de se dire, mais en fait, quand je pose des questions, eh bien, mes parents créent le temps de me répondre
ouais. En
profondeur. Et quand j'interroge encore plus, eh bien, peut-être on peut dire à l'enfant, c'est parfois les parents qui me disent, non, mais en fait, c'est une machine à questions, et va mon fils, ma fille, j'ai pas le temps. Très bien. Eh bien, on peut également dire à l'enfant, écoute, j'entends ta question. Elle est très pertinente. Par contre, là, tout de suite, c'est l'heure d'aller à l'école. Là, tout de suite, maman, elle doit bosser.
C'est pas le moment.
Voilà, papa, il est en train de conduire. C'est pas le moment idéal. Par contre, est-ce que ça te va si on prend le temps ce soir pour en discuter? Ou est-ce que ça te va si mercredi, par exemple, eh bien, moi, je me le note, mercredi, on en discute. C'est aussi apprendre à l'enfant à différer. C'est lui apprendre aussi à prioriser les choses.
Ouais.
Mais prendre le temps de partir de ce qu'il met sur la table, de ce qu'il évoque, de ce qu'il interroge à l'instant T, et ensuite le développer en disant, écoute, le mercredi, l'appeler, oui, tu sais, tu m'as posé cette question. Lui, il n'en est plus là. En tout cas, il a posé la question, on revient dessus. Et là, on peut ouvrir le sujet, justement, poser des questions, écouter ses questions et ses réponses. Moi, j'aime beaucoup envoyer en investigation l'enfant. C'est-à-dire que, du coup, il a posé certaines questions, et on a le droit, en tant que parent, de dire, écoute, c'est une question super intéressante. Par contre, je t'avoue que là, moi, je n'ai pas la réponse.
Ouais.
C'est surprenant pour un enfant parce que pour lui, au départ, ses parents, ils savent tout sur tout. Mais c'est dire, par contre, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher ensemble. On peut aller à la médiathèque, chercher des livres. On peut demander à Google. En tout cas, on fait cette recherche ensemble parce que ta question m'intéresse.
Ok, d'accord. Okay. On a noté. Et pour les justement, on parlait tout à l'heure des événements, du climat que l'on vit en ce moment. Il y a le Covid également. Alors, comment leur expliquer les choses? À partir de quel âge penses-tu qu'on peut établir une discussion et que l'enfant puisse comprendre en fait ce qui se passe vraiment?
Je pense qu'on peut commencer très tôt parce qu'aujourd'hui, tous les enfants sont concernés. Que ce soit en crèche, que ce soit en école primaire, que ce soit au collège, que ce soit à l'université, que ce soit des étudiants à l'étranger, absolument tout le monde me semble concerné aujourd'hui. Un enfant qui va en crèche, eh bien, aujourd'hui, pour avoir dans mon réseau des personnes qui travaillent en crèche, eh bien, le personnel de crèche est masqué. Donc, c'est aussi expliquer à cet enfant-là. Il faut savoir que c'est un âge où, justement, l'enfant n'entend pas forcément ce qu'on lui dit, mais il a énormément confiance en ses yeux et en son toucher. Donc, au niveau de ses yeux, s'il ne voit pas la partie basse du visage de la personne, il a du mal à comprendre le message. C'est comme si on lui enlevait une partie du message, en fait, qu'on lui transmet. Donc, c'est prendre le temps de leur expliquer que, eh bien, actuellement, il se passe quelque chose dans le monde, oui. Qu'ils ressentent est bien réel. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise les mots? Moi, j'invite vraiment à parler de ce qu'on veut, plutôt que de parler en termes de peur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que le climat il est pesant, eh bien, c'est qu'on nous parle beaucoup de peur et de crainte. Donc, en tant que parent, eh bien, dire à son enfant que du coup, tout le monde est masqué parce qu'il y a une maladie, c'est une réalité. Mais c'est pas la même chose que dire à son enfant que tout le monde est masqué parce qu'on veut que tout le monde reste en bonne santé.
Ouais.
Est-ce que tu vois la nuance?
Oui,
c'est exactement le même message.
Absolument.
C'est là où on met notre focus qui va faire la différence pour l'enfant.
Alors, est-ce que les parents qui surprotègent leurs enfants des informations, qui ne leur disent pas tout, qui les laissent un peu dans le domaine de l'enfance, est-ce qu'on les surprotège pas trop? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça?
Alors, est-ce qu'on les surprotège pas? À mon sens, l'enfance est une période justement où l'enfant a une totale liberté de penser et d'être.
Ouais.
Donc c'est une période à préserver parce que justement plus longtemps il va pouvoir justement se savoir un être avec une capacité totale, et bien plus longtemps il va pouvoir se penser adulte plus tard.
Ouais,
maintenant, il vit dans une réalité et cette réalité-là, bah, c'est une réalité que les adultes construisent ou détruisent autour de lui et c'est important qu'il y soit connecté.
Ouais.
C'est important qu'il y soit connecté, donc encore une fois, ça va être dans les termes qu'on va utiliser. À mon sens, ce n'est pas à la portée de l'enfant, il n'y a pas de raison d'aller activer cette partie-là en lui. Par contre, si c'est à sa portée, si c'est quelque chose qui se passe dans sa rue, dans sa ville, dans son quartier, dans son école, c'est important qu'il en soit informé. Et c'est important qu'il en soit informé par, moi, ce que j'appelle les personnes qui l'aiment le plus au monde, ses parents, sa famille proche. Parce que ces personnes-là prendront, à mon sens, le temps de mettre des mots. Et affectivement, pour lui, l'information va être associée à, justement, de l'émotion.
Oui, d'accord, ok.
Donc, si c'est un professeur qui l'annonce,
c'est pas
la même chose.
Faire un petit câlin, le réconforter, le prendre dans nos bras pendant qu'on lui parle.
Totalement. C'est que, du coup, finalement, le parent va pouvoir se permettre déjà d'avoir une écoute. Donc, on sait quand est-ce que l'enfant peut entendre et ce qu'il ne peut pas entendre. Parce qu'on est censé connaître nos enfants et être capable de lire que quand il commence à avoir le pied qui trépigne, c'est que finalement, émotionnellement, c'est compliqué pour lui. Quand il détourne le regard, c'est que là, il est peut-être au bord des larmes. Et de savoir quand est-ce qu'on continue, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on adapte les mots, à mon sens, le parent est le mieux placé pour ça. Maintenant, oui, c'est important de préserver la période de l'enfance.
Ouais.
Et à la fois, eh bien, c'est important que l'enfant reste connecté à ce qui se passe réellement dans le monde. Sinon, l'écart sera... Enfin, le choc va être brutal.
Ouais.
S'il n'y va pas par... moi, j'appelle par dose homéopathique, en fait. C'est que petit à petit, justement, il est conscient de ce qui se passe. Et à la fois, il fait des allers-retours entre le monde des adultes et le monde des enfants.
Ouais, pas évident tout ça, hein, Eva Barra.
Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas simple d'être parent. Il n'y a pas d'école pour être parent. Donc, on devient parent en donnant la vie. Donc, en fait, on apprend avec eux. On grandit avec eux, en tout cas en tant que parents, on grandit avec eux. Il faut aussi s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à ne pas être parfait et se dire juste que on fait de notre mieux à chaque instant avec ce qu'on est et ce qu'on sait.
Alors Eva Barra, on rappelle que tu es ethnocoach en fusion culturelle et que tu accompagnes les personnes désireuses de se trouver, en fait. C'est ça, en gros, Eva Barra.
Totalement. Exactement, c'est justement toutes les personnes qui sont en quête identitaire, qui sont à la jonction de plusieurs cultures et qui vivent ici parfois remplies d'ailleurs ou au croisement de plusieurs ailleurs et qui cherchent justement à se reconstruire, à trouver leur juste place et à s'épanouir pour eux, pour leur couple, pour leur famille, etc.
Et là, pendant le confinement, on peut te retrouver sur tes réseaux, sur Instagram, notamment, exact. Où tu prodigues des conseils, que tu accompagnes tes followers.
Exactement. Du coup, sur Instagram, c'est vrai que c'est un réseau sur lequel j'ai choisi de me concentrer pour le moment. Et du coup, j'y suis assez présente pendant le confinement sous forme de live où justement j'aborde des sujets que les différents abonnés proposent. Justement, donc je parle vraiment de leurs interrogations, de leurs préoccupations du moment.
Comme quoi, par exemple
et le temps d'une soirée, justement, on déblaye et on essaye.
Quel genre de sujet, Eva?
Alors, du coup, dernièrement, par exemple, on a abordé le manque d'énergie. Donc, finalement, il y a un état de fatigue générale. Donc, on a abordé un petit peu la naturopathie. Comment est-ce qu'on peut remonter son énergie à travers des plantes, à travers à travers des tisanes, etc. Comment est-ce que, à chaque fois, je fais la transversale entre notre africanité et justement notre côté occidental. Comment justement nos parents, nos ancêtres faisaient pour remonter leur niveau énergétique. Et aujourd'hui, là où on est aujourd'hui en Occident, comment est-ce qu'on peut retrouver sous une autre forme peut-être ces mêmes boosters naturels.
Très bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc Eva Barra est sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à la retrouver. Donc elle est ethno-coach en fusion culturelle. Je vais juste te laisser dire un dernier mot, Eva.
Eh bien, moi je dirais à tout le monde, déjà merci pour leur présence aujourd'hui et qu'on reste autant que possible positif, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut essayer de mettre à profit cette période de confinement pour s'interroger sur qui on est, sur comment on se sent réellement et qu'est-ce qu'on se souhaite pour soi, pour son foyer et du coup qu'est-ce qu'on peut apporter au monde par la suite. Mais déjà, de revenir à soi, de prendre le temps de se prioriser. Et je pense qu'on y reviendra dans les prochaines semaines.
Absolument, avec plaisir. Merci. On se retrouve vendredi prochain, Eva Barra, avec beaucoup de plaisir.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour les auditeurs d'Africa Radio ce matin. À vendredi, Eva, merci.
À vendredi, Aïssé. Merci beaucoup.